Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue. Ici Boris Chassaigne, je serai avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de l'émission, à Winnipeg, on doit pédaler pour avoir droit à sa bière au Pedal Pub, un concept importé des États-Unis et d'Europe.
Les vélos sont immenses, fait qu'ils prennent toute une voie de la route de la ville de Winnipeg. So on savait que dès le début, on devait avoir le support de la ville de Winnipeg, la province du Manitoba. On s'est assuré que la ville allait vraiment bien supporter le projet.
La nouvelle du départ de la militante franco-ontarienne Gisèle Lalonde a traversé le pays dans son entier. Les hommages fusaient de toutes parts. En Ontario.
C'est une femme exceptionnelle. Ce qu'elle a fait pour ses concitoyens tout au long de sa vie, la bataille pour Montfort, SOS Montfort, qui a eu des répercussions sur la francophonie à travers le Canada. Je pense que ça a vraiment changé l'histoire. Les gens ont davantage, la volonté de se battre pour leurs droits et pour que la francophonie soit vivante en Ontario.
Et la poésie s'invite dans les villages isolés de la Basse-Côte-Nord, dont celui de Tête-à-la-Baleine. L'écrivaine Noémie Pomerleau-Cloutier en fait l'éloge avec ses mots.
En fait, surtout en Basse-Côte-Nord, là, je le dis tout le temps, les gens s'en rendent pas compte, c'est vraiment des poètes. Là. Ils vont te raconter des histoires, puis t'es comme « j'ai rien besoin de changer là-dedans ». Les gens en Basse-Côte-Nord, c'est des vraiment bons conteurs, puis ils ont été habitués, tu sais, dans leur famille, d'avoir des gens qui racontaient des histoires.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, cet été, vous pouvez garder la forme tout en l'usant un peu, faire du vélo tout en sirotant sa bière de microbrasserie. Voilà l'idée mise de l'avant par les copropriétaires du Pedal Pub de Winnipeg. À bord du Vélo Pub, les clients se rendent aux terrasses des plus sympathiques microbrasseries du secteur pour étancher leur soif et se déculpabiliser tout en faisant un petit peu d'exercice. Le projet est né de l'initiative de trois amis d'enfance, tous franco-manitobains. Il s'agit de Miguel Gauthier, Raylan Adam et de Brandon Gwinter. Une activité à la fois physique et gourmande dont le concept fait mouche depuis 1997, notamment aux États-Unis. Les trois franco-manitobains sont très excités à l'idée d'avoir mis en place la première entreprise du genre à Winnipeg. Aurélie Nana Forsen a rencontré Miguel Gauthier, copropriétaire du Pedal Pub.
C'est que ça a été vraiment un coup de chance, honnêtement. Là, c'est pas quelque chose qu'on a planifié depuis 10-15 ans. C'est nous autres, on a... C'est Rylan, puis Brandon et moi, on a tous les trois, en fait, grandi ensemble. Et puis, l'été dernier, Rylan était aux États. Et puis, il faisait un voyage avec ses amis. Puis, il a vu ce vélo-là, il a croisé la route. Puis, je pense que 15 minutes après qu'il a vu le vélo, il m'a appelé. Puis, il m'a dit, hey, il faut qu'on commence ça. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a quelqu'un qui n'a pas commencé ça à Winnipeg encore. Il faut qu'on fasse ça. Et puis, il est de retour de chez nous 3 jours après son voyage. Puis, on a commencé à faire des appels. So, on a été assez convaincus dès le début que ça allait bien fonctionner ici. Puis ça a été aussi simple que juste faire quelques petites recherches. Puis on a été très chanceux d'être premiers en ligne pour se procurer de cette franchise-là. T'sais, les vélos sont immenses, fait qu'ils prennent toute une voie de la route de la ville de Winnipeg. So on savait que dès le début, on devait avoir le support de la ville de Winnipeg et la province du Manitoba. So, on s'est assuré que la ville allait vraiment bien supporter le projet puis qu'elle allait être contente de l'avoir. So, on a commencé ce processus ici le mois de septembre de l'an dernier, ça fait presque un an. Et puis, la ville de Winnipeg savait qu'on venait depuis le mois de novembre. So, on a communiqué avec eux très, très tôt dans le processus. Puis, je pense qu'on a apprécié ça. Puis, ça nous a permis de développer une vraiment belle relation avec eux autres. Puis, tu sais, ils ont suggéré des nouvelles routes. Ils ont suggéré des différentes affaires à faire. Puis, tu sais, ils ont pu communiquer avec les polices puis l'assurance publique Manitoba. So, on a développé des vraiment bonnes relations avec tous ces groupes-là. So, les choses vont vraiment bien.
C'est vraiment un travail d'équipe, finalement, avec tout le Manitoba.
Oui.
Avec la ville de Winnipeg, c'est génial.
Oui, c'est ça. So, parce que c'est quand même un gros projet qui demande, tu sais, on passe pas vite sur les routes. So, on ralentit le trafic, qui est vu, en fait, comme un bénéfice de l'entreprise parce qu'on passe dans des coins de la ville où ce que la ville de Winnipeg veut vraiment transformer ça dans des lieux pédestres plutôt que des lieux routiers pour les véhicules. So, un point boni pour nous autres, c'était qu'on allait ralentir le trafic dans les lieux où est-ce que les gens voulaient marcher puis prendre leur vélo. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, quand on a commencé ça, on se disait que le plus gros défi allait être la ville de Winnipeg puis l'infrastructure courante. Puis ça a été, en fait, le point plus facile pour nous autres.
Pensez-vous que vous allez intégrer un service bilingue à Pédale Pub? Ou...
Non, déjà, on offre un service en français. So, on a des, ce qu'on appelle des pilotes, c'est nos employés qui conduisent les vélos ou qui sont en contrôle du vélo, en tout cas. So, là, on a déjà 3, 4, 5 pilotes qui sont bilingues. T'sais, moi, je suis bilingue. Randy aussi, notre gérante, est bilingue. So, pour moi, ça a été un fait assez important de, quand on a commencé ça, c'était de leur dire à mes partenaires que la francophonie à Winnipeg est quand même assez vibrante puis qu'on veut bien représenter ça puis qu'on veut offrir ce service-là quand les gens le demandent. Nous autres, on s'amuse juste à faire ça puis de voir des sourires sur les vélos. So. So, nous autres, on est rentrés dans un nouveau monde complètement. T'sais, nous autres, Brandon, c'est un gérant il vend des voitures. Et puis Ryland, c'est un comptable. Puis moi, je travaille en télé. So, nous autres, c'est une industrie qui est comme complètement différente. So, pour nous autres, on rentre là-dedans puis on commence à développer des relations avec des microbrasseries, des restaurants, des nouvelles, tu sais, des gens super créatifs en boissons. Puis là, en plus de ça, tu crées des nouvelles amitiés avec tes pilotes ou avec les gens qui montent sur les vélos. Tu sais, de temps en temps, tu marches. Moi, j'ai passé à Princess Auto il y a quelques semaines, puis je portais mon chandail pour le pub. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a arrêté et dit « Hey, oh my God, j'ai fait ça il y a 2 semaines, c'est comme best time ever. » So, les relations que tu peux développer avec les gens, là, c'est devenu, c'est for sure ma partie préférée, en tout cas personnellement. Là, mais vous pouvez choisir en 2 routes, on offre 2 différentes tournées, soit une dans le quartier de la Bourse, puis une dans le quartier d'Osborne. So, les gens peuvent choisir une ou l'autre. Puis là, ensuite, quand ils choisissent la tournée qu'ils veulent faire, so, tout se fait en ligne entre le Canada puis les États. Je pense qu'on est rendu au-delà de 50 différentes villes qui ont ces vélos-là. Puis au Canada même, on est rendu à 5 à 7. Ouais, c'est, on n'aura pas pu demander mieux pour nous autres. Là. Ça va vraiment bien.
Et on vous souhaite le meilleur des succès.
Right on. Merci beaucoup, Aurélie.
Bonjour à tous. Ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La poétesse québécoise Noémie Pomerleau-Cloutier était de passage dans le sympathique village de Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord. Un arrêt de plus dans le cadre de sa tournée de promotion, la tournée de promotion de son plus récent recueil, « La patience du lichen ». L'autrice est venue le présenter à ceux et celles dont elle s'est inspirée pour l'écrire. Elle a donc rencontré des baleinoises et des baleinois lors d'un 5 à 7 le 28 juillet dernier, près des bateaux de bois qui reposent aux côtés du quai fédéral de ce village d'une centaine d'habitants. Elle y a lu des extraits de son livre, en plus d'inviter les gens à partager leur histoire, leurs anecdotes, mais aussi leurs poèmes. Elle s'est, au lendemain de ce 5 à 7, rendue au bureau de poste pour partager des petits bouts de ses écrits avec Jeanne d'Arc Monger, la maître poste, qui ne pouvait à regret assister à l'événement, mais aussi pour aller à la rencontre d'autres résidents du village. Et notre journaliste Pénélope Clermont en a profité pour la suivre et nous proposer ce documentaire par lequel vous pourrez vivre quelques moments de sa visite au village. On est jeudi, il est 17h30, le soleil brille sur le quai fédéral de Tête-à-la-Baleine où se trouvent les 2 bateaux de bois et où on entend le cliquetis des vagues.
J'en profite. Comment je vais avoir tes impressions sur le 5 à 7 d'hier?
C'était vraiment agréable. En plus, honnêtement, je pense que c'est la plus belle scène pour lire de la poésie au Québec. Là. Fait que n'en déplaise au Festival de poésie de Caraquette qui a lieu en ce moment. Là. Je pense que c'était la Tête-à-la-Baleine, la plus belle scène.
Oui, parce qu'on était sur le plaqué à côté des 2 bateaux de bois, ouais, près du quai fédéral. Là.
C'est ça, exactement. Puis même Bella est venue nous visiter. Là, il y a du trafic, là. Donc, c'est ça, Bella est arrivée pendant qu'on finissait la lecture. Bon, c'est super agréable. Aussi, on a jasé avec les gens. Puis on a appris plein de choses sur commencer, grandir à Tête-à-la-Baleine, hein, quitter Tête-à-la-Baleine et revenir.
Ouais.
J'aurais pu écrire un autre livre juste avec ce qui s'est passé hier, je pense.
C'est vrai, les anecdotes. Oui, on a eu des belles discussions avec...
Oui, c'est ça. Non, c'était super agréable. Public très attentif. Puis moi, j'étais vraiment contente de voir ces personnes-là. Puis comme je disais, c'est la plus belle scène pour lire. Je pouvais pas demander mieux.
Dans les villages, l'hiver goûte la liberté, les journées au grand air, le poisson cuit au feu de bois, les fins de semaine de carnaval. La neige et la glace conservent les liens au chaud. La route fond chaque printemps. L'héritage qui se passe entre mâles, c'est à elle la plus jeune que son père veut le donner. Elle ne peut pas encore aller les cages à la force de ses bras, mais elle sait la richesse du corail. Comme le homard, elle a toute sa vie pour muer.
Fait que là, Noémie, on s'en va au bureau de poste pour que tu lises quelques passages de ton recueil à Jeanne d'Arc, la maître postière.
Oui, parce qu'elle pouvait pas être au 5 à 7 poétique hier, puis j'y ai promis. Mais je pense qu'elle a pensé que c'était une blague, mais moi, j'étais sérieuse. Oui. La poésie, c'est sérieux.
Là, on vient d'arriver au bureau de poste.
Oui!
Alors, je te laisse entrer.
Point central de, du village.
Léo, le chien qui nous accompagne, est déjà prête. Il y a un autre petit chien là-dedans en passant.
Léo est plus proche que moi. Bon. Allô, je viens te lire ma promesse. J'avais dit que je viendrais te lire de la poésie. Ce n'était pas une blague, hein? Avoue que tu as pensé que c'était une blague, hein? Les soirées à grandir entre amis sur le pont à côté du magasin, sous la danse des lueurs. Vos parents les menacent. Les lumières dans le ciel, c'est des marionnettes. Ils vont vous arracher la tête si vous restez dehors trop tard. Les aurores boréales ne tuent pas. En arrivant en ville, on meurt par morceaux de ne plus les voir.
C'est tellement vrai, puis on n'en voit plus comme on en voyait quand j'étais, comme quand j'étais jeune. Malgré que j'étais encore jeune, mais jeune. Dans le temps où on croyait qu'on allait se faire couper la tête.
Oui, les parents vous disaient vraiment ça.
Hein? Bien, nous autres, dans mon temps, c'était pas mes parents. Je te dirais que c'est plus les plus vieux du secondaire, là, que ça nous fait peur. Là.
Dans le ventre d'acier de Bella, je m'allonge. Je ne sais pas ce qui me fait tanguer, comme un trop-plein du vide à venir, laissé par tout ce que je quitterai en mettant pied à terre. Je me demande si les bateaux ont un cœur. Je suis certaine que oui. Ils en ont peut-être même plusieurs, le leur et ceux de toutes ces vies qu'ils transportent. La circulation sanguine est d'une vague, après tout. Hey, mais merci beaucoup, hein?
Hey, merci.
Ça m'a fait vraiment plaisir de...
Moi, j'avais pas lu ton livre, puis je suis pas tellement dans la poésie. Je connais pas ça, mais ça m'a fait plusieurs fois des frissons. Là, c'est...
Hey, tellement.
Mais ça, c'est parce que c'est toi le meilleur public. C'est vrai? Parce que les gens, ils ont des fois, tu sais, oh non, j'aime pas ça la poésie, puis en fait, surtout en Basse-Côte-Nord, là, je le dis tout le temps, les gens s'en rendent pas compte, c'est vraiment des poètes. Là. Ils vont te raconter des histoires, puis t'es comme, j'ai rien besoin de changer là-dedans. T'sais. La poésie, il y a des gens qui ont peur de ça, mais c'est ça. Les gens en Basse-Côte-Nord, c'est des vraiment bons conteurs, puis ils ont été habitués, tu sais, dans leur famille, d'avoir des gens qui racontaient des histoires.
Tu fais de la poésie.
Mm-hmm.
On sait qu'en Basse-Côte, il y a de grands poètes qui s'ignorent.
Oui, vraiment.
On va se le dire, là, c'est pas full aux événements poétiques.
Non.
Il y a pas des tonnes de gens qui se déplacent. En plus, à Tête à la Baleine, bon, il y a le phénomène des gens qui sont au large, d'autres au village, d'autres tout ça.
Gens qui sont avec leur famille en ce moment, qui
sont
venus.
Oui, il y a beaucoup de visites.
Plus, il y a la méchante COVID qui s'est invitée.
Exactement.
Il y a des gens qui sont assignés à résidence, disons.
Comment tu composes avec l'intérêt plutôt timide des gens envers la poésie?
Ben, en fait, c'est moi, je suis venue pour présenter le livre qui a été écrit avec les histoires des gens, tu sais. Puis quand je l'ai fait, ben je me suis adaptée à l'horaire des gens. Fait que quand je viens le présenter, je m'y adapte aussi, tu sais. On pouvait pas prévoir. Par exemple, tu sais, il y avait moins de gens que prévu, mettons, à Pacoachipi, parce que le pape était venu en même temps. Mais quand on avait prévu ça, le pape, on savait pas qu'il arrêtait au Québec, tu sais. Qui arrête au Québec en même temps que moi. Fait que moi, contre François, c'est difficile. Mais non, c'est ça. Tant que j'en parle à quelques personnes, qui elles vont en parler à quelques autres personnes, qui elles vont en parler à d'autres personnes, moi, ça me va. Tu sais, la poésie, les gens ont souvent peur. Parce que c'est à tort, c'est associé à l'élite. Tu sais, il faut avoir fait de l'université pour comprendre la poésie. Tu sais, c'est juste pour. Les pelleteux de brou ou les pelleteux de nuages aussi. Mais les gens en Basse-Côte-Nord, ils ont beaucoup d'histoires à raconter. Puis dans leurs histoires, c'est super, c'est toujours très poétique, tu sais. Ça rentre pas compte, mais t'es pas obligé de l'écrire, la poésie, tu peux aussi juste la raconter. Fait que moi, si les gens peuvent comprendre ça, c'est déjà pour moi quelque chose d'important. Mm-hmm. C'est juste le fait d'être là puis de jaser avec les gens, c'est de passer la poésie aussi parce que ça montre que non, un poète, ça n'a pas toujours un foulard, ça n'a pas toujours un béret, c'est pas toujours assis.
T'avais une tuque, ceci dit.
Oui, mais bon, c'est ça. Non, t'as pas vu mon foulard, là, je l'avais pas amené.
Oui, c'est vrai.
Mais j'avais pas non plus ma bouteille de vin, puis ma chandelle, puis mm-hmm. Mon âme torturée en train d'écrire le soir. Non, c'est ça que, tu sais, un poète, ça vit dans la vie, là.
Et l'avantage des plus petits nombres de spectateurs, c'est que les rencontres sont mm-hmm. individuelles. Il y a des discussions peut-être encore plus approfondies c'est que ça, s'il y avait eu une foule, là.
Il y a un sentiment d'intimité aussi. Mm-hmm. Puis les gens sentent qu'ils peuvent raconter des choses que peut-être ils diraient pas s'il y avait, genre, 20-30 personnes. Parce que là, 20-30 personnes dans un village comme Tête-à-la-Baleine, 30 personnes, c'est quand même beaucoup.
C'est énorme.
Puis que c'est leur mère, leur grand-mère, puis la tante, puis qu'ils n'ont pas nécessairement le goût de parler de ce qu'ils ressentent mm-hmm. avec ces gens-là. Fait que moi, tout public est correct, là, t'sais.
Un sourire furtif entre deux grondements de navire. J'ai besoin de voir l'eau, mais j'en ai peur. Toutes les disparitions, le golfe avale, recrache une houle vide. Tu n'as pas la flottaison du logis de ta mère qui vogue de la Providence au village. Insulaire, tes nageoires n'ont jamais poussé. Avant, les enfants naissaient du large, ne plus voir le jour que dans l'urgence aujourd'hui. Prendre le bateau pour venir au monde, dans la ville des îles, dans une province neuve. Pourtant, home is where the heart is.
Vous venez d'entendre un reportage sur Noémie Pomerleau-Cloutier, récipiendaire du prix du Calque, œuvre de la relève à Montréal. Il nous a été présenté par Pénélope Clermont avec la collaboration de Émile Nau au montage.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
On soulignait la semaine dernière le décès de la grande militante franco-ontarienne Gisèle Lalonde, qui s'est éteinte le mercredi 27 juillet dernier à l'hôpital Montfort. Celui-là même dont elle a défendu la raison d'être et la survie il y a près de 25 ans, plusieurs membres de la communauté franco-manitobaine se sont rendus à l'hôpital Montfort pour signer un livre de condoléances déposé tout près du monument de la francophonie. Trois livres de condoléances ont été remis à la famille de la défunte. Le drapeau vert et blanc flottait partout avec les affiches SOS Montfort et Montfort fermé jamais. Rappelons que 10 000 francophones ontariens s'étaient en 1997 rassemblés pour manifester leur opposition à la fermeture de l'hôpital Montfort. Les funérailles de Mme Lalonde ont été célébrées le 4 août à l'église Notre-Dame-de-Lourdes, dans le secteur Vanier à Ottawa. Vanier, dont Mme Lalonde a aussi été mairesse, Gisèle Lalonde laisse un grand vide derrière elle. Ici, quelques témoignages recueillis par notre journaliste Marie Hillès à Ottawa.
Gisèle Lalonde fut l'une des voix et figures marquantes de l'affirmation francophone. Elle a lutté contre la fermeture de l'hôpital Montfort. Beaucoup parlent d'elle comme d'une grande dame. Françoise est bénévole à l'hôpital. Elle était là le 22 mars 1997, quand plus de 10 000 francophones de l'Ontario se rassemblaient à Ottawa pour crier haut et fort « Montfort fermé, jamais ».
C'était poignant parce que c'était plein de solidarité. On était convaincus qu'on fallait prendre notre place. Gisèle, une personne qui était inlassablement dévouée, super grand cœur, une personne qui a les pieds à terre, qui prend les gens tels qu'ils sont, très attachante, comique, elle avait un super bon sens d'humour.
Et qu'est-ce que vous gardez d'elle avec vous?
De ne jamais lâcher, d'être soi-même. Elle était tellement honnête, tellement ouverte, franche.
Laura est anglophone. Elle vient de l'est de l'Ontario, d'une communauté anglophone, mais elle vit à Vanier depuis 14 ans. C'était important pour elle de rendre hommage.
Elle était bâtisse de la communauté. C'est grâce à elle qu'on a une communauté qui est très francophone, qui reste francophone, et qu'on a les institutions comme l'hôpital Montfort qui est au cœur de notre communauté. Moi, je ne parlais pas de bon français quand je suis arrivée. Professeur de français qui parle seulement l'anglais. Je fais la peine pour apprendre le français. Je trouve toujours que ça vaut la peine, car maintenant, j'ai de bonnes relations avec mes voisins. Le français nous donne une langue en commun, mais ça nous donne aussi une culture d'entraide dans la communauté.
Richard est né à Ottawa. Ancien militaire, une fois à la retraite, il a décidé de revenir à la capitale nationale. Et depuis presque 9 ans, il est membre de la Fondation Montfort.
Depuis donc tout ce temps-là, je n'entends parler que de la survie de l'hôpital Montfort et des efforts de Mme Lalonde pour assurer pour les Franco-Ontariens un hôpital où on serait vraiment servi en sa langue maternelle. J'ai constaté depuis, incidemment, que les autres hôpitaux de la ville d'Ottawa ont fait un certain effort dans le même sens, ce qui me réjouit énormément. Donc, bravo à Mme Lalonde.
Francine est née au Québec, mais elle est franco-ontarienne d'adoption car elle vit depuis longtemps à Ottawa.
On lui doit beaucoup. C'est une femme exceptionnelle. Ce qu'elle a fait pour ses concitoyens tout au long de sa vie, la bataille pour Montfort, SOS Montfort, qui a eu des répercussions sur la francophonie à travers le Canada, je pense que ça a vraiment changé l'histoire. Les gens ont davantage, la volonté de se battre pour leurs droits et pour que la francophonie soit vivante en Ontario.
Avec sa disparition, Gisèle Lalonde laisse un grand vide derrière elle. Madeleine l'a rencontrée quand elle travaillait à la ville d'Ottawa.
J'ai eu la chance de jaser avec elle personnellement et je l'ai trouvée sympathique. Tu sais, des fois, il y a des gens que t'aimes en les voyant, c'est ça. C'est vraiment ça. L'hôpital, c'est merveilleux, mais ce moment-là, pour moi, c'était vraiment spécial. J'ai eu un rapport avec elle très personnel.
Qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle?
La fierté d'être francophone.
Gisèle Lalonde est née le 28 juin 1933 à Eastview, en Ontario. Elle complète ses études en enseignement à l'Université d'Ottawa, l'enseignement dans lequel elle va faire carrière entre 1951 et 1973. Sa ténacité et son amour pour la francophonie ontarienne l'amènent à se battre pour les droits de sa communauté, une lutte qui résonne aujourd'hui à travers le Canada. On vous rappelle que c'est en gagnant la bataille contre le gouvernement ontarien de Mike Harris en 1997 que Gisèle Lalonde s'est taillée une réputation de militante en défendant les droits des Franco-Ontariens et en mobilisant sa communauté pour la sauvegarde du seul hôpital universitaire francophone en Ontario. Yasmina Dagri est en compagnie de Geneviève Picard, la directrice des communications et porte-parole de l'hôpital Montfort.
C'était très important pour nous, pour un petit peu vivre notre deuil. Nous savions évidemment, la vie étant ce qu'elle est, que Mme Gisèle Lalonde nous quitterait un jour, mais nous voulions absolument souligner le rôle important, essentiel qu'elle a joué dans l'histoire de l'hôpital et dans l'histoire de la francophonie canadienne.
Oui, c'est tout à fait ça. L'hôpital Montfort, vous qu'elle a sauvé il y a 25 ans, qu'est-ce que vous retenez de cette bataille-là?
Ce que Mme Lalonde nous a vraiment appris, c'est qu'il fallait ne pas hésiter à parler haut et fort. Mme Lalonde, tout le monde le dit, c'était une femme extrêmement généreuse, toujours de bonne humeur, toujours très positive. Bon, elle pouvait avoir des jours où elle se fâchait peut-être contre les politiciens, mais elle était de façon générale, c'était quelqu'un qui avait vraiment une vision positive de la vie. Mais la chose la plus importante qu'elle a transmise, c'est qu'elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Et c'est souvent ce qu'on reproche aux gens qui sont en situation de minorité, c'est qu'ils ont peur de déranger, ils ont peur de perdre des acquis. Donc, quand il y a une situation qui leur déplaît, ils préfèrent éviter le conflit pour éviter que ça dégénère. Mme Lalonde a démontré que non, il fallait protester, très fort. Et c'est pour ça que donc, déjà quelques semaines après l'annonce que le gouvernement voulait fermer l'hôpital Montfort en février 1997, quelques semaines après, 10 000 personnes étaient rassemblées au Centre civique d'Ottawa pour un grand ralliement de manifestation, un moment vraiment unique dans l'histoire de l'Ontario. Et c'était vraiment grâce à l'impulsion de Mme Lalonde. Mme Lalonde nous a appris à prendre notre destin en main et à en tant que peuple fondateur du Canada, que nous avions des droits et qu'il fallait vraiment se battre pour les protéger.
Quel est pour vous le legs aujourd'hui que Gisèle vous a transmis suite à la cause pour l'hôpital Montfort?
Ben aujourd'hui, 25 ans plus tard, l'hôpital Montfort est plus grand et plus fort qu'il n'a jamais été. C'est vraiment remarquable. On a fait l'exercice cette année de voir 25 ans après, l'hôpital a passé vraiment un doigt de fermer ses portes. 25 ans plus tard, l'hôpital a un budget qui a doublé, triplé. Le nombre d'employés de l'hôpital a doublé. Le nombre de services offerts à l'hôpital a également explosé. On est rendu maintenant à un hôpital universitaire. On forme toutes sortes, on forme des centaines, des milliers d'étudiants, non seulement en médecine, mais en sciences infirmières, en physiothérapie, en ergothérapie, même en communication. J'ai plusieurs membres de mon équipe qui sont d'anciens étudiants de l'Université d'Ottawa, qui sont venus faire des stages à Montfort et qui sont devenus des professionnels de communication. Donc, l'hôpital Montfort forme la relève, non seulement médicale, mais toute la relève francophone pour l'Ontario. Et donc, ça, c'est un héritage très important. Et ces gens-là, ensuite, peuvent aller partout en Ontario et au Canada pour être des professionnels compétents, mais surtout bilingues, capables d'offrir des services dans les deux langues officielles. Donc, ça, c'est un rôle essentiel de l'hôpital Montfort que vraiment l'hôpital a pris à bras le corps et qu'on est très fiers de continuer encore aujourd'hui. Et même ça s'est reflété dans l'ouverture il y a quelques années de l'Institut du savoir Montfort. Donc non seulement l'hôpital offre des soins de santé, l'hôpital forme la relève, mais également l'hôpital fait de la recherche en santé dorénavant. Donc l'hôpital Montfort est plus fort que jamais.
Alors Gisèle Lalonde a livré plusieurs batailles durant les moments forts de sa vie. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son parcours à part la bataille SOS Montfort?
Ben, le fait qu'elle a commencé sa carrière comme éducatrice et que pour elle, l'éducation a toujours été le fondement d'une société forte. Jusqu'à elle était très active dans les conseils scolaires et oui, elle a été mairesse de Vanier. Mais pour moi, quelqu'un qui a travaillé dans le milieu des universités, qui a travaillé, qui travaille dans un hôpital universitaire, c'est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup avec moi. C'est quelque chose qui me démontre que je suis convaincue qu'un peuple éduqué est mieux outillé pour progresser. Et c'était également la vision que Mme Lalonde avait.
Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir répondu à nos questions.
Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir pris le temps de parler de cette femme extraordinaire.
Eh bien, bon voyage, Madame Lalonde. Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On remercie notre équipe toute féminine aujourd'hui, Marie Hillès, Yasmina Dagri, Pénélope Clermont et Aurélie Nana Forson. Salutations à notre coordonnateur national francophone, Stéphane Bénard. Et à tous les artistes qui nous offrent leur musique, vous savez que ce ne serait pas pareil sans vous. Cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Nous, en espérant vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.
Twitter @CanadaLJI @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
We're going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
CKUD 90.3 FM.
Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, en Alberta, le village de Falaire peine à trouver des conseillers municipaux qu'il lui faut et demandera à la province de l'en exempter. Guy Matt a défendu la francophonie toute sa vie. L'ancien directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures est maintenant membre de l'Ordre du Canada.
Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de partout et en font une communauté plus grande, plus ouverte, plus accueillante et qui est ouverte sur le monde.
En Outaouais, le fâcheux théâtre a des idées pas si bêtes que ça et s'inspire de Shakespeare in the Park pour l'offrir à Molière.
En faisant ce spectacle-là, dans un parc qui est central, c'est un moment de rassemblement pour toutes ces personnes.
Le musée de Plamondon en Alberta passera l'été à numériser sa collection en vue de l'offrir à de plus larges publics. Et du bruit, de la boucane, des moteurs et des tatouages au programme du Moto Rock Fest à Kedgwick, au Nouveau-Brunswick.
On est venu au Moto Fest à Kedgwick parce qu'on avait entendu parler que c'était gros... Beau show de boucan avec une grue.
Et qui aurait dit qu'on paierait un jour sa voiture usagée plus chère qu'une neuve? Le marché est détraqué à Edmundston.
Beaucoup de gens ont changé leur véhicule qu'ils avaient acheté il y a un an ou deux pour en reprendre un parce que dès qu'il est passé usagé, il valait plus d'argent que ce qu'ils avaient payé neuf.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter. @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On lance l'émission en Alberta et au village de Falaire qui peine à trouver les conseillers municipaux qui lui sont requis par la loi. Le conseil municipal de Falaire doit normalement être constitué de 7 conseillers, mais on en compte actuellement que 5. C'est la deuxième fois que cela se produit et quand ça arrive, la vie municipale se complique. Le conseil doit alors demander une autorisation au ministre des Affaires municipales de l'Alberta pour continuer à fonctionner avec un nombre réduit de conseillers ou alors déclencher des élections partielles. Il faut dire que 7 conseillers pour un village de près de 1000 habitants, c'est peut-être un peu beaucoup. Justine Dubrulle est en poste à Rivière, à La Paix, en Alberta. Elle nous a préparé ce qui suit.
Le village de Falaire se retrouve une fois de plus avec seulement 5 conseillers au lieu de 7. Alors qu'en octobre 2021, le ministre des Affaires municipales, Rick McIver, leur avait donné la permission de fonctionner avec 5 conseillers en attendant qu'il en trouve 2 autres, le village de Falaire avait réussi à remplir les 2 sièges vides par le mois d'avril 2022. Cependant, depuis le mois d'avril, 2 conseillers ont donné leur démission pour de différentes raisons et le nombre total de conseillers est redescendu à 5. Écoutons Donna Buchinski, mairesse du village de Falaire, nous parler des prochaines démarches à suivre.
We will be asking the minister to put us down to a council of 5 so that we can continue doing our business. When councillors leave council, we actually have to notify the ministry and it's their decision what we do, whether we have to put in another by-election or if we request to go down in council size, he has to give that final ministerial order.
Le conseil devra rédiger une lettre au ministre des Affaires municipales pour qu'il soit au courant de la situation. Le village de Falaire demandera la permission de poursuivre l'année avec seulement 5 conseillers au lieu de 7. Le ministre décidera ensuite si le conseil de Falaire peut continuer avec un nombre réduit de conseillers. Selon Buchinski, ce n'est pas la première fois que le village rencontre ce problème.
Since I've been on council, it has been an ongoing issue. I'm not sure if it's only a small town problem because there's other communities that are smaller. And they don't struggle to get people. I'm not sure what it is.
Selon elle, le village a toujours eu de la difficulté à trouver des personnes qui veulent s'impliquer au sein de la politique locale. Elle ne croit pas que ce soit lié au fait que Falaire est un petit village, étant donné que de plus petits villages parviennent à remplir les 7 sièges. Elle a de la difficulté à identifier la source du problème. De son côté, ce qui l'a motivée à s'impliquer au sein du conseil était sa passion pour la communauté.
I've been on council for the last 25 years. Before that, I volunteered in the community I was on the parent council of Routier School. I've always been community driven, and that's just myself. And I think a lot of people are, and that's the type of people we do need on council. But it is a time commitment, and so those are barriers sometimes for people to commit that time.
Buczynski s'est toujours impliqué au sein de sa communauté, que ce soit par le biais de l'école Routier ou du conseil. Après avoir fait partie du conseil depuis 25 ans, elle est toujours aussi motivée par sa communauté et par ce qu'elle peut accomplir pour le village. Elle est confiante que beaucoup d'autres personnes dans la communauté sont aussi passionnées qu'elle. Selon elle, ce sont ce genre de personnes dont le conseil est à la recherche. Elle reconnaît toutefois que le rôle de conseiller demande beaucoup de temps et que cela peut freiner certaines personnes qui autrement voudraient siéger sur le conseil.
I want to see the growth and the prosperity and just the help that my community needs. And so I've always wanted to be a part of that, to make that difference. It might be a small difference, but it feels good to be able to participate to make that difference.
Buczynski est fier de jouer un rôle dans l'épanouissement de sa communauté. Même si parfois ce ne sont que de petits changements, son travail lui tient à cœur. Les membres du conseil investissent leur temps dans la communauté et selon Buczynski, ce travail est gratifiant. Le conseil du village de Falaire espère avoir la permission de poursuivre leur travail avec seulement 5 conseillers, alors que la quête aux 2 autres conseillers s'est avérée difficile à travers les années.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
On se tourne vers l'Ontario où Guy Matt, l'actuel président du Comité consultatif provincial ontarien sur les affaires francophones et ex-directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, vient de recevoir l'Ordre du Canada pour sa contribution à la francophonie canadienne. Guy Matt, qui a aussi pendant 3 ans été président de la Fédération des francophones hors Québec, s'est toujours battu pour la langue française et l'éducation en milieu francophone. Pour lui, c'est évidemment un honneur d'être l'un des 85 nouveaux récipiendaires de l'Ordre du Canada, lui qui a reçu cette médaille en juin dernier des mains de la gouverneure générale du pays. Guy Matt a travaillé dans le secteur d'éducation durant toute sa carrière, en fait. Quand il a commencé à enseigner la langue et était le seul instrument pour le développement communautaire, il n'y avait rien d'autre, relate Guy Matt. Les choses ont heureusement beaucoup évolué depuis. Retour sur sa vie et sur ce qui l'attend, en compagnie de Marie Hillès, postée à Ottawa.
Guy Matt a consacré une bonne partie de sa vie à défendre les droits des francophones en Ontario et au pays. Avant d'être enseignant, il a travaillé, comme il souligne, dans la plus belle bibliothèque du pays, c'est-à-dire celle du Parlement du gouvernement du Canada. Mais après 2 ans et demi, il a décidé de changer.
Vivre dans les livres, c'est pas une vie. Donc, j'ai décidé d'avoir une vie plus excitante et j'ai choisi l'enseignement.
À l'époque, quand il a commencé à enseigner, la langue avait une place très importante dans la communauté.
C'était le seul instrument à ce moment-là de développement communautaire. C'était le seul. Il n'y avait pas autre chose. Les écoles n'étaient pas aussi nombreuses qu'elles le sont actuelles. Elles étaient gérées par des entités anglophones, par une gouvernance anglophone. C'était un moyen de s'assurer que la francophonie va garder une place importante en Ontario.
Guy Matt a voyagé à travers le pays. Cette passion pour la francophonie vient de l'envie d'aider les communautés.
Quand on voit la foi, l'énergie de ces communautés-là qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, souvent avec des moyens extrêmement variés, des fois pas beaucoup de moyens, ben tu dis, ben ça vaut la peine de se battre pour ces communautés-là. Je me rappelle d'être allé dans le nord de l'Alberta. À un moment donné, il y avait une bagarre là-bas au niveau de l'école qui était mixte anglaise-française. Il y avait une partie des parents qui voulaient avoir une école de langue française. Et je suis allé là-bas, j'ai rencontré des parents. Je leur ai dit, vous savez, c'est une chose ordinaire dans d'autres parties du pays d'avoir une école de langue française. Et quelques jours après, ils avaient pris un autobus, mis les enfants sur cet autobus. Au lieu d'envoyer à l'école mixte, ils avaient créé une école pas dans un autre village, une école de langue française. Donc, puis maintenant, c'est une énorme école de langue française qu'il y a dans ce milieu, dans le nord de l'Alberta.
Une autre histoire de quelqu'un qui s'est battu pour sa langue, sa francophonie, cette fois-ci en Terre-Neuve et Labrador.
Il y avait une madame qui avait une terre, puis a décidé, OK, ça prend quelque chose pour mes petits-enfants, moi, sans ça, ils vont être assimilés. Elle a construit un centre scolaire. Elle a construit sur sa terre avec deux classes qui étaient vides, ou en tout cas des... Puis elle a mis ça ensemble, puis elle en a fait une école et un centre communautaire qui était géré par sa fille, dans lequel ses petits-enfants peuvent aller, et tous les voisins qui sont venus. Alors, quand tu regardes ce que ces gens-là veulent, comment est-ce qu'ils ont contribué, ben, on ne peut pas ne pas vouloir faire tout ce qu'on peut dans la mesure de nos moyens.
Avant les années 1970, les conseils scolaires étaient en majorité anglophones en Ontario. Il y avait des conseillers scolaires francophones, mais la gouvernance était en langue anglaise.
Il a fallu se battre, et c'est ce qu'on a fait au niveau surtout de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens quand j'étais à sa présidence. On a poursuivi le gouvernement d'Ontario pour le droit d'abord, le droit à l'éducation en langue française, et ensuite pour avoir le droit à la gouvernance, c'est-à-dire à la gestion des écoles de langue française. Et ça, on a tout gagné ça entre 84 et 86, ici en Ontario, mais aussi en Alberta et ailleurs. On a fait beaucoup de bagarres. Et la Cour suprême du Canada a reconnu que les établissements de la minorité, ça veut dire des établissements qui sont gérés par la minorité, donc par les communautés francophones. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve à travers l'ensemble du pays. Il y a plus de 600 écoles de langue française sur l'ensemble du territoire à l'extérieur du Québec qui, elles, sont toutes gérées par des conseils scolaires de langue française.
Guy Matt, aujourd'hui, observe une grande ouverture sur la francophonie au Canada.
Je pense que celle d'aujourd'hui est le vent dans les voiles. On était dans un moment de résistance. Vous savez, c'était la résistance, c'était la peur, c'était qu'est-ce qu'on va faire pour se conserver, qu'est-ce qu'on va faire pour garder notre petite communauté ou nos petites communautés ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une ouverture, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent de partout et en font une communauté plus grande, plus ouverte, plus accueillante et qui est ouverte sur le monde.
Et ses projets pour le futur?
Vous voyez, il faut quand même faire attention. Là, vous voyez, j'arrive à un âge canonique, donc il faut penser que c'est peut-être plus à d'autres de faire ce travail-là, mais dans la mesure de mes petits moyens, je vais continuer à le faire. Vous savez, je suis encore président du comité consultatif provincial sur les affaires francophones qui conseille la ministre des Affaires francophones, donc ça me donne encore un rôle là de conseiller à la ministre des actions, des activités en lien avec le développement de la communauté francophone. Alors, c'est évident que je fais des choses là.
Un portrait signé Marie Hillès dans le cadre du programme IGL.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
En Outaouais, la troupe du fâcheux théâtre présente la pièce Don Juan dans les parcs de la région. La troupe s'inspire en cela de la longue tradition canadienne et internationale de Shakespeare in the Park. La moralité, l'honnêteté, le bien et le mal sont au centre de cette adaptation du classique de Molière. La pièce sera présentée dans plusieurs parcs d'ailleurs de l'Outaouais. Le fâcheux théâtre a en 2020 été bouleversé comme tant d'autres par la COVID-19, mais avec le projet pilote Molière dans le parc, la troupe a pu reprendre du service et l'espace scénique naturel et de plein air qu'elle a choisi permet au fâcheux théâtre d'être présent dans sa communauté et d'offrir aux amateurs de théâtre des spectacles gratuits. Ici, un extrait de l'entretien réalisé par Yasmina Dagri, qui est en compagnie de Sylvain Sabatier, directeur artistique du fâcheux théâtre.
C'est vraiment très, très, très inspiré d'une tradition très anglo-saxonne, en fait, des Shakespeare in the Park. Parce que partout, dans toutes les villes canadiennes, d'une certaine taille, il y a des Shakespeare in the Park, des compagnies qui jouent des pièces de Shakespeare dans des parcs avec des moyens plus ou moins gros selon les compagnies. Par exemple, à Ottawa, il y a une compagnie qui s'appelle Company of Fools qui font ça depuis plus de 20 ans maintenant. Et quand j'ai parti le projet, je les ai rencontrés. J'ai rencontré le directeur artistique de l'époque pour lui demander comment ils avaient fait tout ça. Parce que j'aimais leur idée, ils arrivent dans un parc, il n'y a rien, puis ils s'installent. Ils sont complètement autonomes, le public arrive, s'assoit par terre, eux ils jouent le spectacle, et ensuite ils démontent et c'est terminé. Et ils vont dans plein de parcs de par toute la région, et ça permet d'amener le théâtre à tout ça. Et puis ça fait des fois des spectacles vraiment, évidemment tous les spectacles ne se valent pas, mais des spectacles vraiment, vraiment cool. Il y a quelques années aussi, j'avais vu l'équivalent, si on veut, mais à Vancouver, puis c'est un festival qui s'appelle Bard on the Beach, puis ça, là c'est vraiment, quand on parle de gros moyens, là c'est énorme. Ils installent quasiment un gros chapiteau dans un parc pour tout l'été, comme le Cirque du Soleil, et ils ont plusieurs spectacles qui tournent avec, et tout est sous des tentes, mais c'est comme un théâtre, mais sous des grosses. Donc c'est vraiment cette tradition-là qui est quand même assez cool, qui fonctionne bien auprès du public puisque ça permet de voir du Shakespeare. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y aurait pas la même chose en français avec Molière? C'est là que j'ai rencontré donc Scott Florence, le directeur artistique de Company of Fools, qui était aussi le fondateur de la compagnie. Donc il m'a vraiment expliqué comment ils avaient démarré. Et il a été très transparent, il nous a donné plein de conseils. Donc tranquillement, on a parti le projet comme ça et pour amener en fait le théâtre dans le quartier dans lequel on est, qui est le Vieux-Hull, qui est un quartier quand même très... avec beaucoup de cette diversité sociale et culturelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, il y a aussi bien des artistes comme, moi ou ma conjointe qui vivent là, des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui n'ont pas de problème d'argent, mais il y a aussi beaucoup de sans-abri, beaucoup de pauvreté, beaucoup de, d'immigration et tout ça. Donc, c'est un quartier que je suis très attaché pour, à cause de toute cette diversité-là, puis de me dire, ben, en passant ce spectacle-là, dans un parc qui est central, c'est un moment de rassemblement pour toutes ces personnes. Et c'est ça qu'on arrive à faire. On a aussi bien des fans de théâtre qui viennent nous voir tous les ans.
Vos pièces de théâtre sont créatives. Vous l'adaptez souvent en fonction du public qui est en face de vous. Pourquoi est-ce que c'est important de transmettre cela et pourquoi est-ce qu'il faut être créatif de nos jours pour faire aimer en fait ce théâtre-là à la plus jeune génération et puis au public qui vous regarde souvent?
Je prends les pièces de Molière, elles ont été écrites au XVIIe siècle. On est dans une autre époque, tu sais, on est tellement stimulé de fiction, on a Netflix, on peut regarder quasiment une série télé en prenant l'autobus, tu sais. Donc, on n'a plus du tout ce même rapport à la fiction, ce même rapport aux histoires. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que pour la forme des pièces, notamment, tu sais, cet été, on fait Don Juan. Don Juan est une pièce qui peut durer jusqu'à 2h30. Du temps que nous, on a plus la patience de prendre, et on sait déjà, parce qu'on comprend beaucoup plus les codes de l'histoire, des histoires, de la fiction et tout ça. Donc juste pour ça, il faut, à mon avis, un petit peu adapter à ça. Et aussi, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de monter Molière pour monter Molière, c'est aussi, OK, qu'est-ce que j'aime de Molière? Oui, c'est drôle, oui, c'est bien écrit, mais c'est aussi, il avait souvent un discours sur la société. Il avait une réflexion sur ses semblables, sur son époque et tout. Et cette réflexion, elle est encore très, très pertinente aujourd'hui. Mais plus ou moins directement, je dirais. Selon les thématiques qu'il aborde, c'est sûr que le contexte a évolué et donc pour que ça puisse parler à notre public, vraiment, ben, je pense que ça vaut la peine de se poser la question, OK, qu'est-ce qui est, quand tu commences à travailler sur une pièce, qu'est-ce que cette pièce nous dit sur son époque à elle, qu'est-ce qu'elle nous dit sur notre époque aujourd'hui et est-ce que ça se comprend clairement ou est-ce que ça vaut la peine de l'adapter un petit peu pour le rendre plus contemporain en fait. Donc tu vois, dans le cadre de Don Juan, il y a deux thématiques centrales. Tout ce qui est le rapport à la séduction, parce que dans Juan, tout le monde sait maintenant c'est quoi, c'est le séducteur, mais il y a aussi ce rapport à la foi, à la religion. Quand Molière a écrit la pièce il y a 400 ans, c'est sûr qu'on n'avait pas le même rapport à la séduction que maintenant. On n'a même plus le même rapport à la séduction qu'il y a 10 ans, avec tout le mouvement hashtag MeToo, tous les questionnements sur le consentement, etc. etc. C'est sûr qu'il fallait se poser la question de okay, comment est-ce que la séduction est traitée dans la pièce? Est-ce que c'est problématique avec notre façon dont on le voit aujourd'hui? Et si oui, comment on l'adapte? Et ensuite, tout ce rapport à la religion et à la foi. Et donc c'était ça, de comment cette pièce-là peut nous parler aujourd'hui.
Le musée de Plamondon passera une partie de son été à numériser sa collection d'artefacts. L'objectif derrière cette initiative est à terme d'ouvrir sa collection à de plus larges publics. Et pour y arriver, le musée de Plamondon en Alberta a pu compter sur l'aide de ses employés d'été, tels que Judas Piontek, qui a décroché le boulot pour la deuxième fois en autant d'années. Judas Piontek affirme adorer son travail. Pour lui, chaque pièce de la collection est différente, unique, à son histoire aussi anodine soit-elle. De Plamondon, donc, notre journaliste Vincent Lavoie nous en apprend plus sur le musée et sur le travail de moine qu'assure Judas Piontek.
Le musée de Plamondon rouvre pour la saison estivale avec de nouvelles expositions et une nouvelle boutique de souvenirs. Avec toutes ces nouvelles activités, le musée peut compter sur la main-d'œuvre d'employés d'été comme Judas Piontek, qui a la lourde tâche de numériser les artefacts du musée dans une base de données informatique.
I applied for the job last year. Got the job. And so I got the job this year based on my experience here last year. I got it mostly because I am a paperwork geek and I actually enjoy things like that.
Il a décroché un premier emploi d'été au sein du musée l'été dernier avant de se servir de son expérience pour obtenir l'emploi qu'il occupe cette année. Son travail consiste à garnir la bibliothèque virtuelle d'artefacts pour les rendre plus facilement accessibles.
All of our records are currently on paper, beginning in 1972 up until 2022. And as of, I believe, last year was the first year, may have been the year before, they started putting all these paper records onto the computer. So we take photos of the objects, measurements, conditions, things like that, make notes, and everything is given an accession number. So based on who brought it in, the year it was brought in, and what item number that is from that person, you punch it into the computer, and then it makes it really easy to find anything. If you don't know what it does or where it came from or how old it is, you can look it up really fast.
Toutes les informations physiques sur les objets sont notées et classées, que ce soit la condition, le donateur et sa taille. Toutes les informations sont méticuleusement classées automatiquement. Le travail de bureau pourrait ennuyer certaines personnes, mais pas lui.
It sounds super monotonous, but everything changes because every item is different, you know? So you're punching in all the same information, but it's different for each thing. And you get to learn personal histories of specific items, of specific groupings of items, where they come from, what the heritage culture people were like from that time. It's actually really interesting information.
Le musée de Plamondon est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 16h, tant pour sa boutique de souvenirs que pour des visites guidées. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Plamondon.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Bon, on se tourne maintenant vers l'est du pays, ça va gazer. Premier arrêt, le Moto Rockfest de Kedgwick au Nouveau-Brunswick. L'événement réunit des passionnés de ces engins motorisés sur deux et trois roues. Cette cinquième édition du festival a su attirer les amateurs du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, mais aussi du Québec. Vrombissement, fumée, musique, sourire, ambiance familiale et festive étaient au programme de l'événement qui s'est tenu le 23 juillet dernier. De quoi passer un bon moment pour les amoureux de Harley-Davidson, de moto indienne et compagnie. Maxime Gauthier vient de se joindre à l'équipe de Canada-info.ca. Il est posté à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. Il a sacrifié ses oreilles et ses poumons pour nous.
La fin de semaine dernière s'est déroulée la cinquième édition du Moto Rock Fest à Kedgwick. Des gens de Campbellton, Saint-Léonin, Miramichi, Grand-Sault, Rivière-du-Loup et de la Côte-Nord au Québec se sont déplacés pour assister aux activités. L'événement avait pour but de réunir les amateurs de motocyclettes de toutes sortes. Voici quelques mots d'un membre de l'organisation.
C'est ça, nous autres, on organise le Moto Rock Fest, puis notre but, ben, c'est d'assembler tous les amateurs de moto, toutes les familles, c'est pour tout le monde, puis on veut que tout le monde vienne se rejoindre à la communauté des barbecues, puis à apprendre à connaître c'est quoi ce que c'est d'être des barbecues, puis d'être pareil comme une famille, tout le monde se connaît, tout le monde aime ça, puis on aime ça que tout le monde ait du plaisir avec le moto, puis participer à des activités qu'on fait le Moto Fest.
Dans le fond, on est Street Crew de Rivière-du-Loup. On est venu au Motofest à Kedgwick parce qu'on avait entendu parler que c'était gros, beau show de boucan avec une grue. C'était impressionnant à voir. Une belle gang, belle journée ensoleillée aussi. On s'est tapé un beau 2h30, 3h de route de Rivière-du-Loup à venir voir les boys. Beaucoup de clubs sont présents. Avec ce beau soleil-là, on ne pouvait pas rater cette journée-là.
Plusieurs groupes de musique locaux se sont produits sur scène lors de la soirée de samedi. Entre autres, le groupe Felsen, dont les membres sont âgés de 15 et 16 ans. Voici les commentaires du compositeur du groupe Cédric Boissonneau qui nous témoigne de son expérience au Moto Rockfest.
Notre expérience envers le party moto était très satisfaisante. C'est vraiment le fun. On a à peu près 12-13 tunes, des compositions originales de nous autres. Dans le fond, un album complet. C'était malade. Tout le monde dansait. C'est comme si l'adrénaline dans le corps, puis le pouvoir de pouvoir y redonner de la musique, pouvoir y donner de la mélodie, puis que le monde enjoy ça. Juste voir les faces sourire de « Yeah, ça claque donc bien! » C'est malade d'avoir ça, puis c'est des expériences que j'aimerais vivre à tous les jours, pouvoir rendre le monde content et avoir un beau sourire.
On reste dans la mécanique et au Nouveau-Brunswick où le marché du véhicule usagé surprend à Edmundston. Edmundston où les véhicules d'occasion en viennent parfois à valoir plus cher que les neufs. En raison de la pandémie, la fourniture de composants électroniques aurait eu une influence sur la fabrication de véhicules neufs au point de créer une pénurie et de gros délais de livraison. Cette pénurie a une autre conséquence, celle de faire monter les prix des véhicules usagés. Notre journaliste Sébastien Caron fait le point sur la situation avec Jérémy Lang, directeur financier pour le groupe Olivier à Edmundston.
On le sait, la pandémie a mis à mal certains secteurs de l'économie et bouleversé nos habitudes. C'est le cas du marché automobile neuf et celui-ci a eu une influence directe sur le marché des véhicules usagés. On écoute Jérémy Lang, directeur financier du groupe Olivier à Edmundston.
L'usager vaut de l'argent, sauf dans certains modèles comme les pick-up, ça a tombé, c'est épouvantable. Ça a un impact énorme. Beaucoup de gens ont changé leur véhicule qu'ils avaient acheté il y a un an ou deux pour en reprendre un parce que dès qu'il est passé usagé, il valait plus d'argent que ce qu'ils avaient payé neuf.
Une situation dont certains n'ont pas hésité à tirer profit en revendant des véhicules usagés plus chers que lorsqu'ils les avaient achetés neufs. Attention, nuance toutefois, cela ne concerne que les véhicules les plus économiques.
On a des concessionnaires qui vendent du neuf, on leur reprend des véhicules qui arrivent neufs de la vanne, on les plaque tout de suite comme des usagers, mais ils prennent tout de suite une valeur 10-15% supplémentaire. Chose qu'on ne connaissait pas dans le temps. Au contraire, tu achetais un véhicule et il perdait tout de suite. Ben, il va en perdre tout de suite. En moyenne, c'est 20 à 30%. Mais passé la première année, il va en reprendre tout de suite. J'ai eu le cas d'un ami qui s'est acheté un Honda Civic en location, flambant neuf. Deux mois après, il a tradé pour une Acura et ils lui ont redonné plus d'argent que ce qu'il devait dessus. Puis ça, c'est très fréquent. Dans certains modèles, dans un marché bien spécifique, c'est-à-dire que le marché actuel qui est recherché, c'est le véhicule économique. Il y a beaucoup de, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui ne faisaient pas de véhicules usagés ou très peu, très peu. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un manque à gagner énorme parce qu'il n'y avait plus de véhicules neufs dans les cours. Et qu'ils se sont mis à faire de l'usager. Mais faire de l'usager, c'est un autre métier. C'est vraiment autre chose. Mais ils se sont rendus compte beaucoup qu'il y avait plus d'argent à faire que dans le nœud. Par exemple, tu vends un Civic nœud, le prix, c'est celui qui est établi par Honda Canada. Tu ne peux pas changer le prix. Dans l'usager, tu fais ce que tu veux.
L'évolution des taux de financement a une influence également sur le marché du véhicule neuf. Le rapprochement des taux entre le neuf et l'usager fait qu'aujourd'hui, l'usager devient l'option la plus intéressante.
On a vu de quoi, là, il y a une hausse de taux terrible. Aujourd'hui, on est plus autour du 8,99 dans un véhicule neuf. Là, depuis très peu, là, depuis quelques jours, c'est à peu près les mêmes taux. Alors qu'avant, on pouvait avoir des 0%. C'est qu'à comparaison, t'achètes un véhicule usagé, souvent il a perdu un peu de valeur, fait que tu te retrouves avec les mêmes taux d'intérêt, autant aller vers un usagé, qui souvent vient un peu plus équipé qu'un nœud. Fait que, à part la location, si tu veux financer, c'est le véhicule usagé qu'il faut viser.
Et aujourd'hui, c'est une autre problématique qui semble pointer le bout de son nez. Le marché de la pièce automobile semble touché lui aussi par une pénurie.
Puis là, on se rend compte qu'on a un autre problème aujourd'hui, qui est en train de nous toucher sur tous les points, là, c'est les pièces automobiles. J'ai eu l'exemple d'un Kia Soul, un petit véhicule, ben un ordinaire. Tu as échangé des petites pièces dessus, rien de fou. Il n'y a pas de pièces nulle part. Il faut les commander, donc il faut qu'ils les fabriquent et ça peut prendre un certain temps. C'est que les pièces automobiles commencent à devenir un autre problème. Et quand tu veux faire réparer ton auto, ben tu n'as même plus les pièces.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.
Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On avait du monde avec nous aujourd'hui et on les remercie, en particulier nos journalistes Sébastien Caron, Yasmina Dagri, Vincent Lavoie, Marie Hélès, Justine Dubrulle et Maxime Gauthier. Notre coordonnateur national était Stéphane Bénard. Des petits mots doux aussi pour les artistes qui nous offrent thèmes et ponts musicaux tout au long de cette demi-heure. Merci. Et merci aux équipes de la radio qui assurent notre diffusion. Cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire et de l'initiative de journalisme local. Ici Boris Chassaigne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là. Retrouvez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca. À la semaine prochaine.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
You know, it's your boy Dash all the way from Grenada and you tune in to C-Cut 90.3 FM.
My baby left me, my mule got lame. Lost my money in a poker game. A windstorm came just the other day. Blew the house that I lived in away. I'm having so much trouble. So much trouble. So much trouble. I'm about to lose my mind. Started selling whiskey, wine and gin. They called me last week and last night again. Now the sheriff, he comes in sight. Walked through my house and got me shooting dice. I'm having so much trouble. So much trouble. So I'm about to lose my mind. Carry me away, my pajamas on. I even hate that I was born. Let me out and I'll go cross town. Couldn't find my baby, she'd put me down. I'm having